Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir.
La revue de presse de Natacha Polony avant de retrouver...
Reportage, on se retrouve après.
Alors déjà, en effet, un potentiel grand vainqueur pour ces élections, et ça finit par devenir une habitude, l'abstention. Début mars, pour un sondage IFOP-JDD, 57% des personnes interrogées déclaraient ne pas vouloir aller voter le 22 mars. Parmi elles, on trouve les moins de 35 ans, les ouvriers et les employés, qui constitueraient le plus gros des abstentionnistes. Alors bien sûr, maintenant la question, c'est à qui profite l'abstention ? Un nom sur toutes les lèvres là encore depuis des mois. Vous vous en doutez, le Front National s'affiche d'ores et déjà comme le premier parti de France. Et après tout, il y a de quoi ? Toutes les enquêtes d'opinion donnent le FN entre 30 et 33% d'intention de vote, sur un taux de participation de 42% environ. On relativise les choses donc, mais si les sondages s'avèrent proches de la réalité, la percée du Front National, réédition des élections européennes de mai 2014 mais au niveau local, atteindrait vraiment une autre ampleur. Parce que ces chiffres permettent au candidat FN, dans au moins la moitié des cantons, de se hisser au second tour. Tandis que le PS, avec ses 20% d'intention de vote, la faible mobilisation de son électorat ainsi que les divisions à gauche, va se retrouver éliminée. Donc dans un duel UMP-FN, la victoire du premier est plausible, mais pas dans tous les cas. Enfin, dans d'autres terrains plus favorables pour le PS, des triangulaires sont à prévoir, mais aussi des duels PS-FN. Et là, autant dire que les barrières entre la droite et l'extrême droite pourraient être franchies assez aisément. On aura donc des élus frontistes dans les départements, sans majorité pourtant, et l'UMP se retrouvera devant de nouveaux choix cornéliens. Pourtant, la droite et le centre se frottent les mains d'avance à la tête de 41 départements sur 101 actuellement. Ils pourraient au minimum en gagner une vingtaine, et non des moindres. Des départements symboliques, comme la Corrèze et l'Essonne par exemple, les chasses gardées respectives de François Hollande et de Manuel Valls. C'est aussi en Vendée que la droite espère marquer les esprits avec un grand chelem en bonne et due forme. Elle espère conquérir tous les élus du département se faisant élire dans tous les cantons. Par contre, pour les départements qui passeraient de droite à gauche, on peut chercher longtemps, a priori seule la Lozère est dans ce cas de figure, en comptant une forte mobilisation des électeurs de gauche aux deux tours. Mais justement, on se demande où est la gauche en ce moment. Alors du côté du PS, François Hollande et Manuel Valls tentent de sauver les meubles. Toute la semaine dernière, ils ont sillonné la France en se distribuant les rôles du bon et du méchant flic. À Valls, le discours sur la France qui a peur du FN, les annonces anxiogènes et offensives du type « J'ai peur pour mon pays, j'ai peur qu'il se fracasse contre le Front National », nous dit Manuel Valls avec tonitruance. À François Hollande, l'annonce des bonnes nouvelles, le discours sur la France qui gagne, la France réconciliée aussi, réconciliée avec sa gauche, avec les frondeurs, bref, le mot d'ordre est à l'apaisement. Le président de la République veut mettre l'accent sur la reprise économique qu'il sent arriver en France. Il sent que c'est le bon moment de valoriser cette France qui gagne, peut-on ainsi lire dans son entretien au magazine hebdomadaire Challenge le 12 mars dernier. C'est cette même conviction qui, dit-on dans son entourage, l'a fait se déplacer dans l'Isère pour visiter des entreprises innovantes. Un département susceptible de tomber dans l'escarcelle de la droite. Mais pour mieux rassembler derrière le PS, François Hollande a aussi reçu les frondeurs à l'Élysée pour un apéritif la semaine dernière. Comme un équilibriste, il a en même temps annoncé qu'il ne changera pas de politique, ni de Premier ministre, quels que soient les résultats des départementales. Ce serait pour lui l'occasion d'opérer un large remaniement, tenter peut-être d'introduire des divisions au sein des frondeurs de son propre camp, et aussi d'ouvrir le gouvernement aux écologistes favorables à sa politique. Mais les écologistes, justement, où sont-ils dans cette bataille électorale aux enjeux cruciaux pour le pays ? Eh bien, nulle part, on serait tenté de dire, et d'appliquer pour eux cette phrase de Jean-Christophe Cambadélis, actuel premier secrétaire du Parti Socialiste. Je cite « La gauche commet un suicide politique en direct. Sommés de clarifier leur ligne par le PS, les Verts sont tiraillés entre la ligne intransigeante de Cécile Duflot, qui a quitté le gouvernement il y a maintenant un an, pour se rapprocher de la gauche de la gauche, et ceux qui aimeraient bien revenir, comme Jean-Vincent Flacé. Le résultat, c'est un éparpillement jamais vu des écologistes. Certains font alliance avec le Front de Gauche, d'autres avec les socialistes, et d'autres font cavalier seul pour un baroud d'honneur écologiste qui ne servira à rien ni personne. » Le résultat, c'est aussi pour l'instant 2 à 3% des intentions de vote. Et puis, on a Daniel Cohn-Bendit, jamais à court d'idées pour sortir les verts du pétrin. L'écologie n'est pas de gauche, assène-t-il avec conviction. Et d'ajouter qu'un candidat écologiste devra participer en 2017 à la primaire à gauche, et que ce même candidat écologiste devra participer également à la primaire à droite, pour se recentrer au sein du jeu politique. Avouez-le, en ce moment, la droite, la gauche, moi je confonds tout. À ceux enfin qui s'inquiéteraient pour le Front de Gauche de Jean-Luc Mélenchon, dont la ligne pro-Poutine fait des remous au sein du parti, la situation vire à la catastrophe. Le Parti communiste pourrait bien perdre ses deux derniers départements, l'Allier et le Val-de-Marne, où le PC règne notamment sans interruption depuis 39 ans. La fin d'une époque, en somme.
Merci Céline pour ce tableau à la veille de ce premier tour des départementales. Il est effectivement difficile d'y voir clair, d'autant plus qu'il semble que le ministère de l'Intérieur brouille des étiquettes. Je vous laisse sur cette interrogation, on y revient tout à l'heure lors de la discussion. Et il est maintenant temps d'écouter Maëlys et de partir en Israël.
Merci Clément. Ça y est, c'est officiel depuis hier soir, Benjamin Netanyahou et le parti du Likoud ont remporté une large victoire aux législatives israéliennes, score qualifié d'excellent alors que jusqu'au dernier moment, les pronostics étaient serrés entre son parti conservateur et le parti de centre-gauche, l'Union sioniste, emmené par Isaac Herzog. Mais c'est finalement le Premier ministre sortant qui a fait la différence, et ce pour la quatrième fois, félicitations aux vainqueurs. À travers ce vote, les Israéliens ont visiblement plébiscité la politique de fermeté de Netanyahou. Bon, peut-être un peu trop ferme, on l'a vu l'été dernier. À l'heure où la situation au Moyen-Orient est hors de contrôle, c'est le moins qu'on puisse dire, et à l'heure du rapprochement inédit américano-iranien, oui, le grand méchant Iran qui a juré la mort d'Israël. En s'étant troublé, c'est bien le choix de la sécurité et du patriotisme juif qui a été fait. Mais, attention, battement de tambour Clément, tout n'est pas encore gagné puisque le Premier ministre doit maintenant former une coalition à la Knesset et que la chose pourrait être beaucoup plus ardue qu'il n'y paraît au premier abord. En effet, les sièges de la Knesset, au nombre de 120, sont répartis entre une dizaine de petits partis qui ne seront pas faciles à convaincre. Le Likoud n'ayant obtenu que 29 sièges, c'est-à-dire la moitié moins de la majorité absolue, donc 120 divisé par 2 plus 1, 61, pour gouverner.
Pour une grande victoire, c'est une grande victoire.
Voilà. Pour gouverner, il va falloir cravacher sec les gars. Bref, si une alliance avec la gauche n'est ni souhaitée ni envisageable après que Netanyahou ait rejeté l'option d'un gouvernement d'union nationale, il aurait pu envisager une union avec le parti centriste Kulanu, dirigé par Moshe Kalon, désormais arbitre de ces élections entre Netanyahou et Herzog. Cet ancien du Likoud, favorable à la solution des deux États, a été échaudé par les postures autoritaires de son parti d'origine. Les relations entre Kalon et Netanyahou, nous dit le journal Le Monde dans un article publié ce matin, sont exécrables. Dissidence oblige. Les interlocuteurs possibles pour Benjamin Netanyahou se font de plus en plus rares. Les alliances potentielles se font de plus en plus difficiles à nouer. A fortiori après 3 mandats, quand les autres leaders pensent que vous avez déjà fait vos preuves et que votre programme politique n'apportera rien de nouveau sous le soleil. Mais cette campagne n'aura pas été non plus sans surprise. Tous les observateurs politiques ont relevé les nombreuses maladresses de la campagne de Netanyahou. En témoigne la visite surprise du Premier ministre au Congrès américain, qui a un peu court-circuité l'administration d'Obama, alors même que les relations n'étaient pas au beau fixe entre les deux pays. Dans un article de Mediapart, publié il y a 10 jours, donc déjà un peu ancien, on apprend que la Maison-Blanche n'a été prévenue que quelques minutes avant l'annonce publique de cette invitation. Voilà, voilà. Même entre amis, même en famille, comme a insisté Netanyahou devant le Congrès, je cite « Dans une famille, les désaccords sont toujours désagréables, mais nous devons nous rappeler que nous sommes d'une famille. » Cela ne se fait pas, ce n'est pas très poli. Bref, Netanyahou est rentré dans le livre des records. Il est devenu le premier chef d'État à s'exprimer devant le Congrès sans l'accord de la Maison-Blanche. L'opération séduction à l'initiative d'élus républicains du Congrès pour parer la politique iranienne de Barack Obama a logiquement été mal perçue par les démocrates et le président en personne. Pire, alors qu'Israël a toujours été soutenu par les Américains, notamment grâce au tout-puissant lobby de l'AIPAC, AIPAC, invariablement supporter de la politique patriotique ferme d'Israël, on apprend que ce lobby n'est plus autant soutenu par la communauté juive américaine au profit de nouveaux groupes de pression, tels que le J Street, créé en 2008, qui se définissent comme pro-paix et proposent une alternative libérale au soutien inconditionnel à Israël. Bref, c'est un changement de fond qui est en train de s'opérer et qui pourra bientôt peut-être bouleverser la donne dans la politique étrangère américaine. De même, pendant cette campagne, les projecteurs n'auront pas été seulement braqués sur la danse électorale de Netanyahou. Autre surprise, le score record de la Ligue arabe unie, arrivé 3e au scrutin, qui réunit une myriade de petits partis qui se veulent les représentants des musulmans israéliens, qui ne représentent que 20% de la population totale du pays, et qui pâtissent de nombreuses discriminations et d'une sous-représentation politique. Et, chose inédite, des Israéliens de confession juive ont fait leur entrée dans ces partis. Bref, le changement dans la continuité.
Merci Maëlys. Alors, chers auditeurs, ce parcours dans l'actualité est plus ou moins brûlante, hein, touche à sa fin. Mais ne fermez pas encore les players, car nous restons avec vous dans la dernière partie de l'émission, la discussion, plus interactive comme son nom l'indique, où nous réagissons à tout ce qui a été dit jusqu'ici.